Radio Okapi.
Le journal de Linda Bosuma.
Plus de 1200 ménages en situation difficile au camp Mutshanga à Mangina dans le Nord Kivu. Ils ont fui l'insécurité dans leur milieu. Voici plus de 4 mois maintenant et demeurent sans assistance. Ils plaident pour le retour de la paix afin de retourner dans leur village. Journée sans contentieux, c'est le thème de la première édition de sensibilisation pédagogique des opérateurs économiques de Kipushi dans le Haut-Katanga. Le coup d'envoi a eu lieu hier à Kanyaka, organisé par la direction de la brigade provinciale anti-fraude du Haut-Katanga. Et puis, tracasserie dénoncée par l'ONG ACAJ à l'aéroport international de Njili à Kinshasa à propos du test Covid. Le directeur national adjoint au programme national de l'hygiène aux frontières réagit et donne des précisions sur cette situation. Le docteur Christian Kabasele est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. C'est depuis plus de 4 mois que les déplacés en provenance de plusieurs localités des territoires de Mambasa en Ituri et du territoire de Beni au Nord Kivu ont trouvé des abris à Mangina, mais demeurent sans assistance. Ils sont pour la plupart originaires des localités de Luemba, Teturi, Biakato, Beumanyama et autres. Estimés à plus de 1200 ménages, ces déplacés vivent difficilement au camp Mutshanga. Ils plaident pour que la paix revienne afin qu'ils retournent dans leur milieu d'origine. Mboussa Maliatero, président des déplacés du camp Mutshanga, explique la situation au micro de Marc Marofimbo.
Ils traversent une vie de souffrance. Ils sont arrivés sans rien en main. Pas d'assistance à nourriture. Ils dorment à terre. Pas même des casseroles pour préparer la nourriture. Aujourd'hui, ils vivent aux dépens des petits travaux aux autochtones. On leur donne un peu à manger, soit de l'argent ne dépassant pas 2000 ou 3000 francs, pas plus. Il y a eu assistance dans l'ancienne vague des déplacés. Mais ça fait 4 mois que nous n'avons rien comme assistance. Nous avons une ONG locale et la société civile qui souvent passent ici, nous visiter et observer comment nous vivons ici au camp. Nos droits, tant que déplacés, doivent aussi être respectés. Mais tout ce que nous voulons, c'est le retour de la paix pour que nous tournions dans nos milieux d'origine, car la vie de déplacement n'est pas facile et personne n'en voudra bien. Aujourd'hui, au moins, nos enfants sont récupérés et étudient dans une école de la place qui est hors site, surtout ceux du primaire, mais ceux de l'école secondaire ont du mal à payer les frais scolaires. Pour nos femmes enceintes, nous avons l'aire de santé de Linjo où elles sont soignées gratuitement.
Nous sommes toujours au Nord Kivu. Des hommes armés jusque-là inconnus ont abattu un jeune homme, revendeur des crédits prépayés. C'était dans la nuit de jeudi à ce vendredi dans la ville de Beni. Le forfait a eu lieu au quartier Kalinda, commune de Mulekera. Une situation qui a provoqué la colère des jeunes du quartier qui se sont soulevés en barricadant les principales artères de la commune. André Kitenge nous raconte.
C'est vers 19h30 local que le drame a eu lieu en face de l'école Mapambazuko au quartier Kalinda, non loin du rond-point Katoto dans la commune de Mulekera, en plein centre-ville de Beni. Selon plusieurs témoignages recueillis sur le lieu, la victime, un revendeur de cartes prépayées et de transactions financières via téléphonie mobile, a été tué par balle par des inconnus armés qui ont surgi à son lieu de travail. Des biens de valeur, notamment des téléphones et une somme importante d'argent ont été emportés par ces malfrats qui ont par la suite disparu dans la nature après leur forfait. Cette situation a provoqué une vive tension chez les jeunes du quartier qui ont tout de suite barricadé les grandes artères de la commune pour manifester leur colère. Les forces de l'ordre qui sont arrivées sur le lieu du drame pour retirer le corps et remettre de l'ordre se sont butées à une forte résistance des jeunes. Des coups de feu de sommation ont été tirés en l'air pour disperser des manifestants afin de récupérer le corps de la victime et pour rétablir de l'ordre. Pour le moment, un calme apparent règne dans le quartier où les éléments de la police patrouillent pour parer à toute éventualité. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Du côté de la Tchopo, l'insécurité reste persistante à Kisangani dans différents quartiers de la ville. Des cas de cambriolage et vols à main armée ont été enregistrés ces 2 derniers jours au quartier Plateau Boyoma dans la commune Makiso. Certains habitants de la ville attribuent ces actes à un groupe des bandits Kuluna. Des 24 jeunes désœuvrés arrêtés la semaine dernière, 12 ont été relâchés 48 heures après. Face à cet état de choses, les habitants de ces quartiers promettent de se prendre en charge. Jacques Moukonkolé, reportage.
Le dernier cas en date remonte dans la nuit de mercredi à hier jeudi au plateau Boyoma. Deux filles ont été violentées et leur téléphone ravi par des Kuluna. Les premiers suspects seraient des inciviques Kuluna arrêtés puis relâchés sans aucun procès il y a 48 heures. La population dit n'avoir plus confiance à la justice et promet de se prendre en charge. Témoignage. Il n'y a pas moyen, l'insécurité est totale. Il vaut mieux que nous veillions dehors pour que les voleurs nous laissent tranquilles. Mais ils continuent à nous voler. Et même le surnommé Mobutu est parmi eux. D'ailleurs, il a dit qu'il contrôle toute la situation. Les Kuluna ont exagéré. Je vois que nous allons commencer nous-mêmes à nous prendre en charge. Rappelons que dans une opération de traque amorcée la semaine dernière, la police avait arrêté 24 présumés Kuluna. 12 parmi eux ont été relaxés deux jours après par le premier substitut et chef du parquet secondaire près du tribunal de paix de Kabundo. Ce dernier a été suspendu par le procureur général près de la cour d'appel de Kisangani pour une durée de 3 mois. Motif, avoir monnayé la libération de ces hors-la-loi. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, bouclage dans les communes de Lingwala et Kinshasa ce matin par les éléments de la police nationale congolaise. Les habitants de ces deux communes se sont réveillés avec des barrières interdisant l'accès ainsi que la sortie. Selon les informations recueillies auprès de la population de ces communes, la police était à la recherche des bandits appelés Kuluna, auteurs de cas d'insécurité et criminalité dans cette partie du pays. Seuls les médecins, écoliers et enseignants avaient droit de passer. Les vendeurs du marché Lufungula trouvés sur place et pleines des bavures qui puissent occasionner des pertes lors de ce bouclage. Écoutons le témoignage de cette vendeuse au micro de Sarah Sumbela.
Nous sommes arrivés et on nous dit que la police procède au bouclage pour rechercher des bandits appelés Kuluna. C'est ainsi que nous ne pouvons pas rentrer dedans. Nous nous demandons quand est-ce que nous allons commencer à vendre. S'ils veulent arrêter le Kuluna, ils peuvent débuter le bouclage de 3h à 5h du matin parce que nous autres, nous venons de loin. Mais là, nous ne pouvons pas vendre. Nous vendons des feuilles de manioc. Ça commence déjà à se détériorer. Nous allons perdre notre marchandise aujourd'hui. Qu'allons-nous faire dans ce cas? La police fait du bon travail, mais il faut arrêter vers 5h du matin pour nous permettre de vendre. Moi, par exemple, j'habite Mankali, je suis arrivé, je ne peux pas vendre. Mon produit s'est détérioré déjà. Ils interdisent aux gens d'accéder au marché. Eux, ils ont des provisions pour manger. Et nous, où allons-nous manger? En tout cas, nous demandons qu'ils viennent nous recenser afin de payer nos produits détériorés à cause du bouclage.
Les policiers trouvés sur le lieu n'ont pas voulu s'exprimer. Par ailleurs, sachez qu'un conseiller du chef de l'État arrêté par la police est détenu depuis hier au camp Lufungula justement. Antoine Ababi Fouanina est accusé de viol présumé sur une mineure. Ce fait est encore en train d'être vérifié par l'officier de la police judiciaire de parquet qui instruit le dossier. Le conseiller pourra être transféré ce vendredi au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Selon les sources du parquet, l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, dit suivre de près ce cas pour lequel l'OPJ instructeur a prévenu contre tout trafic d'influence. Et puis, comment documenter les cas de recrutement et d'utilisation des enfants dans les forces et groupes armés au Nord Kivu? C'est la thématique d'un atelier organisé hier à Goma par des partenaires de la MONUSCO en matière de la protection des enfants en période des conflits armés. 3 mois durant, les journalistes des radios communautaires en province vont s'appuyer sur les spots, sketchs et autres messages montés à l'occasion de cet atelier. C'est pour dire non à ce phénomène au sein de la communauté du Nord Kivu. Écoutez à ce sujet, Madame Aline Kisha Nyonkuru, responsable de l'unité protection de l'enfant de la MONUSCO à Goma.
À travers ces médias, nous voulons conscientiser tous les acteurs, à commencer par les enfants et les jeunes eux-mêmes, sur les dangers qu'ils peuvent rencontrer lors de leur engagement dans les groupes armés. De l'autre côté, nous voulons responsabiliser davantage les parents sur leur devoir de protection de l'enfant, surtout dans le contexte actuel dans la région de l'Est. Nous voulons également engager les forces de défense nationale pour la mise en œuvre du plan d'action national signé par le gouvernement en 2012. Nous voulons également engager les groupes armés à arrêter le recrutement et l'utilisation des enfants et les autres violations qu'ils sont en train de commettre à l'encontre des enfants lors de ces conflits dans la province du Nord Kivu.
Notez que c'est l'unité information publique de la MONUSCO qui a facilité la conception et le montage des 10 messages de sensibilisation pour la protection des enfants en cette période des conflits armés pour une campagne qui sera lancée le 1er octobre prochain dans la province du Nord Kivu. Direction le Haut-Katanga, coup d'envoi hier à Kanyaka dans le territoire de Kipushi de la première édition de la sensibilisation pédagogique des opérateurs économiques sous le thème « Journée sans contentieux » organisée par la direction de la brigade provinciale antifraude du Haut-Katanga. Cette opération vise à amener tous les assujettis à se conformer à la loi en s'acquittant de leurs obligations vis-à-vis de l'État sans compromission. Explication de Jean Ganduka Bongo.
Pour Philippe Kibawa, le responsable de la brigade antifraude, l'objectif est de sensibiliser les assujettis à la culture fiscale pour donner à l'État les moyens dont il a besoin pour réaliser les projets sociaux qui ont pour finalité le développement de la province. Il les a appelés à se départir des antivaleurs telles que la fraude fiscale, la fraude douanière, la contrebande, la corruption qui favorise le coulage des recettes et prive l'État des moyens de sa politique.
Nous avons voulu lutter en synergie contre la fraude ainsi que la tracasserie sous toute les formes, par les mécanismes d'accompagnement des régies financières, des services d'assiette et taxation, afin de maximiser les recettes qui doivent servir des moyens pour la réalisation de l'intérêt général. Nous avons voulu faire cette démarche, autre que la démarche dissuasive, en prenant le civisme fiscal dans les chefs de nos concitoyens assujettis aux droits, impôts, taxes et redevances.
Philippe Kibawa a aussi plaidé pour que cessent les tracasseries dont sont victimes les opérateurs économiques de la part de certains services de l'État, surtout ceux qui travaillent dans l'illégalité à la frontière et aux différents postes de péage. Cette préoccupation a été aussi partagée par les opérateurs économiques, ce qui expliquerait par moment le recours par certains d'entre eux à la fraude et à la contrebande. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Pendant ce temps, en Ituri, le gouvernement congolais a déjà disponibilisé 50 millions de dollars américains pour l'exécution de son programme de développement des 145 territoires. L'annonce a été faite jeudi à Bunia par le responsable du bureau central de coordination, Beseko, au gouverneur de l'Ituri. Au cours d'une réunion de travail, l'exécution des projets dans le cadre de ce programme a été lancée mardi dernier à Mambasa Centre. L'objectif pour le gouvernement est de doter la population des services sociaux de base. Martial Kiza Biamungu nous en dit plus.
Les territoires de Mambasa et du Romo sont les deux premières entités ciblées à l'Ituri pour la réalisation de ces projets de construction des infrastructures sociales de base. Il s'agit pour la première phase des 4 écoles modernes et 4 centres de santé. Pour Michel Ramazani Amouli, chef d'antenne du bureau central de coordination, le gouvernement est déterminé à finaliser ces vastes programmes pour contribuer au développement des entités. Il énumère d'autres projets qui seront bientôt exécutés.
Il y a d'autres composantes, notamment le désenclavement des territoires avec la réhabilitation et l'entretien des routes de desserte agricoles. Il y a l'électrification rurale avec la construction des mini-centrales solaires. Nous projetons construire 109 forages avec les pompes intégrées. Le programme des 145 territoires envisage construire les bâtiments administratifs et les logements des cadres territoriaux, mais aussi le développement des chaînes de valeur agricoles.
Notons que le débit effectif de l'exécution de ces programmes, même dans les territoires de Djougou, Mahagui et Arou, interviendra après les processus en cours des sélections des entreprises d'exécution. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Actualité internationale. Nous sommes d'abord au Burkina Faso. Des tirs ont été entendus ce vendredi matin avant l'aube à Ouagadougou, dans le quartier abritant la présidence et le quartier général de la junte militaire au pouvoir depuis janvier dernier, ont rapporté des témoins à l'agence France Presse, et le signal de la télévision nationale a été coupé. L'origine de ces tirs restait inconnue ce matin. Plusieurs axes de la capitale burkinabé étaient bloqués dans la matinée par des militaires, ont constaté les mêmes sources. Une mission de haut niveau dépêchée au Mali par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a rencontré hier le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, pour tenter de dénouer la crise diplomatique avec la Côte d'Ivoire. Des progrès semblent avoir été accomplis vers une libération des 46 soldats retenus au Mali depuis le 10 juillet. Et puis au Cameroun, l'importation des produits éclaircissants pour la peau a été interdite suite à une série de cas très médiatisés d'utilisateurs développant un cancer de la peau. Selon la Société camerounaise de dermatologie, près de 30% des femmes de la ville de Douala et environ une écolière sur quatre ont appliqué de tels produits en 2019.
L'invité.
Comme annoncé dans nos éditions de ce matin, nous recevons le docteur Christian Kabasele-Kazadi, directeur national adjoint au programme national de l'hygiène aux frontières, au lendemain de la dénonciation par l'ONG ACAJ sur nos antennes des tracasseries perpétrées par les services du ministère de la Santé. Le docteur Christian Kabasele répond et donne ici des précisions sur la situation. Il s'entretient avec J.R. Lungembo.
Docteur Christian Kabasele, bonjour.
Bonjour.
Certains défenseurs et même certains compatriotes dénoncent déjà le fait que vos services du ministère de la Santé, commis à l'aéroport international d'Ndjili, continuent d'exiger systématiquement des tests Covid aux passagers déjà vaccinés venant de l'étranger. Pouvez-vous nous les confirmer?
Merci pour la question. Pour l'instant, nous avons suivi sur vos ondes qu'une organisation de droits de l'homme se plaint du fait que nos services continuent à exiger le test pour les gens qui reviennent au pays malgré qu'ils détiennent le certificat international, plutôt le certificat de vaccination. Déjà en février, le Conseil des ministres avait pris des mesures par rapport à ça et ces mesures ont été répercutées au niveau de nos coordonnateurs et nous pensons que ces mesures sont d'application au jour d'aujourd'hui.
Alors, on nous a laissé entendre que vous exigez $50, mais on sait qu'à l'époque, l'enregistrement online, en ligne, donc à partir de l'étranger, ou même quand vous arrivez au poste d'entrée, c'était autour de $45. Comment expliquer ce changement?
Bon, officiellement, nous n'appliquons pas le tarif de $50. Bon, nous étions aussi surpris d'apprendre que y a des gens qui estiment qu'on leur demande $50. Et c'est ici l'occasion pour nous pour attirer l'attention de nos compatriotes pour qu'ils soient aussi regardants. En principe, pour celui qui doit passer le test à l'arrivée, c'est $45. Bon, si quelqu'un remplit les conditions pour ne pas passer le test, il faudrait qu'il s'oppose à toute cette tentation de payer en dehors de ce qui est exigé. En principe, ne peut être exempté que celui qui, au fait, a été complètement vacciné. Bon, il peut se faire que certaines personnes se présentent avec des certificats tout en n'étant pas complètement vaccinées. C'est un problème. Les mesures qui étaient prises concernaient les gens qui sont complètement vaccinés. Alors, c'est vrai que on peut estimer à ce jour que nous n'avons pas atteint tout le monde, mais un travail a été fait pour sensibiliser au maximum nos voyageurs pour que ils s'approprient les mesures. Donc, à notre niveau, nous pensons avoir fait du travail, mais comme il y a une observation qu'il y a encore des dérapages, nous allons continuer à nous sublimer pour permettre à ce que tout se passe bien en mettant à leur disposition notamment un numéro vert et en veillant à ce que nos agents respectent scrupuleusement les mesures telles que c'était pris.
Oui, vous avez annoncé tout à l'heure qu'une note d'instruction des services avait déjà été adressé à l'attention des coordonnateurs provinciaux du PNHF depuis le 16 février 2022. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont suivi ces instructions et qu'avez-vous fait de ceux qui avaient au fait empiété ces instructions?
Bon, à ce jour, nos services en province ne nous ont pas remonté de cas de violation des instructions qui ont été données.
Ou encore des tracasseries.
Des tracasseries. Bon, on venait d'en avoir avec la CAJ. Je viens de le dire, on va capitaliser. On va approfondir nos enquêtes pour comprendre, au fait, si réellement ce phénomène se présente dans nos points d'entrée. Mais par rapport aux mesures, il faut que les gens sachent que étaient exemptés au test Covid pour, à l'arrivée, tout voyageur ayant une preuve de vaccination complète. Et dans le trafic national, quand vous avez votre preuve de vaccination complète, vous allez vous déplacer sans entrave.
Pourquoi ne pas supprimer carrément l'obligeance de ces tests?
En fait, la gestion de la pandémie de Covid n'est pas l'affaire du PNHF. Nous sommes un service de mise en œuvre. C'est à un niveau supérieur que les décisions sanitaires se prennent. À notre connaissance, il y a déjà une démarche dans ce sens, mais ce n'est pas à nous de le déclarer. Donc, le moment venu, si les autorités du pays estiment qu'il faille arrêter, on nous instruira et on suivra ces instructions.
Docteur Christian Kabasele Kazumba, merci d'avoir bien voulu nous accorder cet entretien.
Merci à vous et à vos auditeurs.
Le directeur national adjoint au programme national de l'hygiène aux frontières répondait aux questions de J.R. Lungembo Luabung Andji. Voilà tout pour ce journal coordonné par Piero Elamenji. Jean-Claude Nsiala était à la mise en onde et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.